Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
On réveille, bonne journée, soyez les bienvenus à la une de Radio Classique ce matin. Le bouillon pris hier par les grandes places financières à Paris. Le CAC a terminé en baisse de près de 2%. Francfort, moins 3,71. Et en soirée, Wall Street décrochait de 2,3%. Bonjour Eric Mauban.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Alors deux facteurs expliquent ce décrochage. En Europe, c'est clairement l'aggravation de la pandémie. Aux États-Unis, c'est plutôt l'impasse des négociations sur le plan de relance à 8 jours maintenant de la présidentielle.
Effectivement, la perspective d'un accord au Sénat dans les prochains jours est minime. Face à la situation économique américaine et à la seconde vague d'épidémie, eh bien, le temps presse, mais démocrates et républicains campent sur leur position, incapables de s'entendre. Même un compromis de la dernière heure demanderait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour être mis en place et aider concrètement les entreprises et les ménages américains en difficulté. Une perspective qui a fait plonger Wall Street hier, vous l'avez dit. En Europe, le moral n'est guère meilleur. Hier, SAP, le géant allemand des logiciels professionnels, a repoussé de 2 ans ses objectifs de moyen terme, et ce à cause de la crise sanitaire. L'espoir d'une reprise de l'activité à partir du troisième trimestre de cette année s'envole en fumée. La nouvelle a provoqué une forte baisse sur toutes les valeurs du secteur technologique européen. Désormais, les regards des investisseurs se tournent vers les États-Unis avec Microsoft, qui publie ce soir, après la clôture de Wall Street, ses comptes trimestriels. Jeudi, ce sera au tour d'Apple, Facebook, Amazon et Alphabet, la maison mère de Google.
Voilà, des GAFAM qui pèsent pour près de 7000 milliards de dollars de capitalisation. Si les résultats sont mauvais, évidemment, ça va peser très lourd. Merci Eric Mauban. Le Covid qui pèse donc lourd sur les marchés, on le voyait, l'heure n'a jamais été aussi grave depuis la mi-mars. Le nombre quotidien de cas de contamination s'envole. Le Conseil scientifique les évalue en ce moment en France à 100 000 nouveaux cas par jour. Le niveau des hospitalisations, lui, est comparable à la fin mars. Alors Emmanuel Macron chamboule son agenda. Il devait se rendre au Creusot aujourd'hui pour un déplacement sur le thème du nucléaire. Finalement, il reste à Paris. Deux conseils de défense sont prévus aujourd'hui et demain. Il rencontrera les responsables politiques, puis les partenaires sociaux dans la foulée, avec à la clé de nouvelles mesures, un couvre-feu étendu, reconfinement partiel ou locaux, comme l'ont fait avec succès Israël ou l'Australie. Dans tous les cas, les médecins poussent clairement en faveur de mesures drastiques et immédiates. Les patronats, eux, plaident, eux, pour tout, sauf un reconfinement total, comme en mars. Le risque ne serait plus seulement une récession, mais l'écroulement de l'économie française, estime Geoffroy Roux-de-Bézieux, le président du MEDEF. Le recours systématique au télétravail est désormais plus que probable. L'exécutif contraint aussi de revoir son calendrier social. L'entrée en application de la réforme de l'assurance chômage est reportée pour la seconde fois de 3 mois, désormais au 1er avril 2021. Enfin, devant l'Assemblée nationale, Bruno Le Maire a dit hier s'attendre à une croissance négative au 4e trimestre. Le ministre de l'économie, qui va reprendre ses rendez-vous hebdomadaires de suivi avec les secteurs les plus touchés par la crise. Les mesures de soutien existantes pourraient d'ailleurs rapidement être rechargées, précise-t-il. Il annonce aussi une nouvelle mesure pour aider les entreprises dans l'incapacité de payer leurs loyers. C'était, disons, le trou dans le filet de sécurité aux entreprises, cette question des loyers qui représente le 2e poste de dépense des entreprises. Alors cette mesure prendra la forme d'un dispositif fiscal en faveur des bailleurs. Les détails à suivre dans la semaine.
Le journal de l'économie sur Radio Classique.
6h43, face à la crise, tous les secteurs, on le sait, ne sont pas logés à la même enseigne. Ça se voit dans les résultats trimestriels que les groupes publient en ce moment. Pour des centaines de milliers de salariés français, la question aujourd'hui c'est, dois-je songer à changer de métier ? À Matignon, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a présenté aux partenaires sociaux hier un nouveau dispositif baptisé Transition collective. La reconversion professionnelle, c'est plus facile à dire qu'à faire. Thomas Giraud.
Depuis près d'un an, Samir Ayad est au chômage. Ce quadragénaire a mené toute sa carrière dans la restauration, mais le confinement a été fatal à son dernier poste. Aujourd'hui, il range son tablier.
Si je me présente avec mon CV sous le bras dans un restaurant à mon âge, je ne serai pas pris. Donc ils vont privilégier les petits jeunes qui sont un peu plus polyvalents peut-être. Donc j'ai 42 ans, je pense que pour moi la restauration c'est définitivement terminé.
Samir cherche d'urgence un emploi stable, il veut se former à la programmation numérique, secteur d'avenir, mais il est recalé.
Soit vous êtes trop vieux, soit pas assez d'expérience dans le domaine. personnes demander. Là, je suis dans la tranche d'âge ingrate où il y a zéro aide, à part mon compte formation où j'ai 600 euros que je vais sans doute utiliser. Je commence une formation VTC le 1er novembre. Là, je suis un peu paumé.
Pour les salariés en reconversion, le gouvernement va lancer d'ici la fin de l'année un dispositif dit de transition collective réservé aux métiers porteurs et en grande partie financé par l'État. Yvan Ricordo est secrétaire national de la CFDT chargé de la formation continue.
C'est plutôt faire le pari du développement des compétences plutôt que le pari du licenciement et du passage par la case Pôle emploi, ce qui peut être quand même des lueurs d'espoir qui sont données alors qu'il y a beaucoup de mauvaises annonces dans la période.
Un bémol, ceux qui ont perdu leur emploi depuis le début de la crise sanitaire ne pourront pas bénéficier du dispositif.
Thomas Giraudeau, l'autre grand titre ce matin, c'est cet appel au boycott des produits français lancé hier par le président turc Recep Tayyip Erdogan après s'être tu tout le week-end au cours duquel Erdogan avait, rappelez-vous, mis en doute la santé mentale d'Emmanuel Macron. Plusieurs pays européens ont fini hier par apporter leur soutien à la France. Alors par-delà la querelle politique, que pèse vraiment le risque d'un boycott turc des produits français? Petit panorama des activités tricolores en Turquie avec Julien Marcilly. Il est économiste en chef de COFAS.
La France exporte environ 6 milliards d'euros de marchandises vers la Turquie dans des secteurs très divers, comme l'aéronautique, le secteur automobile, à la fois pour le marché local et pour produire sur place et ensuite réexporter vers l'Europe, et puis des produits pharmaceutiques également. Donc ce sont ces entreprises-là qui seraient les premières affectées, mais sachant qu'au total, toutes ces exportations ne représentent que 1,2% des ventes totales à l'étranger réalisées par la France.
Voilà, donc même s'il était massif, un boycott turc des produits français, on l'a compris, aurait un impact plutôt limité sur l'économie française. En tout cas, pour l'heure, la première victime des tensions franco-turques, eh bien c'est la Turquie elle-même. Sa monnaie, la livre turque, a touché hier un plus bas historique à plus de 9 livres et demi pour 1 euro, 8 livres pour 1 dollar. C'est la devise la moins chère du monde en ce moment. Dans l'actualité également, les États-Unis annoncent cette nuit la vente à Taïwan de son système de défense antimissile Harpoon. Taïwan, par ailleurs, en train d'acheter des chasseurs F-16 dernière génération aux Américains. Vente évidemment condamnée par Pékin. Enfin, cette petite information pratique pour les franciliens. Sachez qu'à partir de demain soir, 21h, demain soir mercredi, il y aura moins de transports en commun en Île-de-France, plus qu'un métro sur deux. Même chose pour les bus, les tramways, RER et trains de banlieue. Annonce faite hier par Île-de-France Mobilité et qui est donc la conséquence directe du couvre-feu en vigueur depuis 10 jours. Les marchés, je vous redonne les grands indices, hein, Paris moins 1,90. Hier, lesté évidemment par la forte probabilité désormais de nouvelles restrictions liées à la pandémie. Très touché les valeurs tech, notamment dans le sillage de l'allemand SAP qui a décroché de 22% à Francfort hier. Capgemini 7,629%. L'appel turc au boycott qui fragilise des titres aussi comme L'Oréal moins 1,14 ou encore Danone moins 1,13. À Wall Street, le Dow Jones moins 2,29. En Asie, Tokyo est en baisse ce matin. Et puis à Londres, la banque HSBC annonce ce matin avant bourse un bénéfice net en baisse de 46% sur un an. Les banques ont...